Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, l'invité d'Escale est Biram Dahabeid, l'activiste mauritanien et militant des droits de l'homme. En 2008, il a fondé l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Lauréat du prix 2013 des droits de l'homme des Nations Unies, il a aussi été désigné en 2017 par le magazine américain Time comme faisant partie des 100 personnes les plus influentes dans le monde. Un parcours qui ne l'a pas empêché d'être emprisonné à plusieurs reprises, la dernière fois durant 18 mois entre 2014 et 2016. Biram Dahabeid qui s'inquiète d'abord de la situation dans son pays.
La situation en Mauritanie est malheureusement une situation très désastreuse, en ce sens que le pouvoir en place en Mauritanie continue encore à renforcer davantage la répression contre le mouvement anti-esclavagiste, continue à user des coups sécuritaires contre l'organisation IRA, qui est le mouvement droit civique engagé contre l'esclavage en Mauritanie et contre toutes les violations des droits de l'homme. Donc il y a des procès politiques intentés de manière récurrente et continue contre les militants pacifiques qui se sont adossés sur le droit international et sur la lutte non violente pour lutter contre l'esclavage qui frappe 20% de la population mauritanienne. D'autre part, il y a aussi l'interdiction systématique par le pouvoir des associations des droits de l'homme. Nous assistons à la torture systématique qui est utilisée par le pouvoir en place contre tous les opposants, surtout ceux qui sont engagés contre l'esclavage et contre le racisme qui sévit encore en Mauritanie. Bon, en Mauritanie, il y a la pauvreté qui a été certifiée par le rapporteur spécial des Nations Unies, Philippe Aston, sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Il y a la torture qui a été certifiée, qui est utilisée de manière systématique par la police mauritanienne. Ceci est certifié aussi par le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture. Il y a aussi l'esclavage dont la persistance est certifiée par le rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage. En Mauritanie, il y a un apartheid non écrit implanté en Mauritanie par une extrême droite ethnique, xénophobe, afrophobe et réfractaire au droit international. Mais l'attention que l'ONU prête à la situation en Mauritanie donne beaucoup d'espoir aux militants que nous sommes, aux victimes aussi et aux observateurs, qu'avec plus de persévérance, plus de vigilance et plus de pression des instances onusiennes, nous réussirons à obtenir un changement pacifique qui va garantir à tous les Mauritaniens l'égalité, la citoyenneté et la paix.
Alors la Mauritanie est un État membre des Nations Unies, en 1993. La Mauritanie a des obligations internationales à signer, à adhérer à certaines conventions. Comment se fait-il que la Mauritanie ne soit pas rappelée à l'ordre régulièrement? Vous parliez de votre rencontre avec donc M. Gilmore, donc avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Est-ce que le Haut-Commissariat, est-ce que les instances onusiennes rappellent régulièrement même donc à la Mauritanie ses obligations?
Oui, nous pensons qu'au-delà des rapports qui sont très clairs des différents rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur les différentes formes de violation des droits de l'homme en Mauritanie, au-delà de ça, l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies n'ont pas encore adopté une position rigoureuse qui pourra amener le gouvernement mauritanien à souscrire à l'esprit et la lettre des lois et conventions, des obligations qui sont issues de son adhésion aux Nations Unies. Et parmi les objectifs de ma visite ici au siège des Nations Unies et ma discussion avec le sous-secrétaire général, c'est de demander davantage d'utilisation des leviers de pression prévus par le système des Nations Unies pour amener le gouvernement mauritanien à garantir davantage l'application de la lettre et de l'esprit des lois onusiennes.
On On le rappelle, vous avez été donc lauréat du prix des Nations Unies des droits de l'homme en 2013. Est-ce que justement l'obtention de ce prix vous a permis de renforcer votre combat, de le voir davantage reconnu? Est-ce que ça a été vraiment un outil efficace, ce prix?
Oui, c'est un outil très utile parce que l'obtention de ce prix a donné plus de visibilité au combat que j'amène, à la situation aussi gravissime que subissent les esclaves, que subissent les ethnies noires en Mauritanie, que subissent les prisonniers d'opinion en Mauritanie, que subissent les travailleurs, et qui sont privés de beaucoup de droits et qui sont sujets à beaucoup de violations de droits de l'homme. Je pense que ce prix aussi doit impliquer normalement une plus grande implication des Nations Unies dans la problématique explosive que nous vivons en Mauritanie.
Vous-même, donc, vous avez été victime de la répression, vous avez été détenu dans les geôles donc, mauritaniennes. Sur quelle base est-ce qu'il y a eu des procès? Quel type d'éléments juridiques ont été retenus contre vous pour justement vous incarcérer et vous condamner?
Ce sont toujours des éléments juridiques fallacieux, inventés, qui sont fabriqués de toutes pièces. Et les différentes instances onusiennes ont aussi dénoncé ces arrestations arbitraires, ces procès inéquitables. Et même le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a sorti un avis très défavorable au gouvernement mauritanien et qui demande au gouvernement mauritanien de rétablir la justice, de rétablir les droits après mon incarcération avec deux autres personnes pendant 18 mois, du 11 novembre 2014 jusqu'au 17 mai 2016. Le caractère inéquitable, arbitraire des arrestations, la torture aussi qui a été utilisée, les violations de la loi ont été relevées par les différents rapporteurs des Nations Unies, les différentes instances et le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire.
La Mauritanie a connu plusieurs régimes, il y a des présidents qui se sont succédés. Les changements de régime n'ont rien changé à l'histoire?
Non, parce qu'en vérité, les régimes n'ont jamais été changés. Parce que c'est que depuis 1978, il y a une junte militaire qui a renversé le pouvoir civil en Mauritanie. Ce pouvoir qui avait un projet d'État a été, malgré ses lacunes, a été renversé. Et il y a une élite, un groupe d'officiers d'une même ethnie, des officiers adeptes d'un nationalisme local brumeux, un nationalisme arabe orienté vers la xénophobie contre les Noirs et surtout vers le racisme contre les populations noires de Mauritanie. Et c'est une junte militaire dont les membres ne sont pas instruits et dont les membres sont assoiffés d'un pouvoir ethnique. Ils ont créé une dérive ethnique de l'État et ils ont implanté en Mauritanie le pouvoir d'une extrême droite arabo-berbère. C'est l'une des ethnies en Mauritanie, c'est l'ethnie qui a le pouvoir en Mauritanie. Et cette extrême droite a imposé un pouvoir pratiquement de discrimination raciale qui frappe avec une répression inimaginable la communauté noire mauritanienne et qui maintient encore l'esclavage contre la communauté haratine.
Est-ce qu'il y a également d'autres pays qui connaissent des situations comparables dans la région ou en Afrique? Ou est-ce que vraiment la Mauritanie est un cas à part?
La Mauritanie est un cas à part en ce sens où c'est une minorité arabo-berbère qui a hérité le pouvoir de la colonisation française et qui a maintenu un pouvoir ethnique et qui a créé une méthode de recensement, de comptage des populations qui reproduit toujours une majorité fausse et artificielle. C'est pourquoi le recensement actuel en Mauritanie est un recensement qui vise à transformer les moins de 20% de la population arabo-berbère en majorité écrasante, alors que la majorité de la population mauritanienne, 80% de Noirs, dont 20% d'esclaves, qui sont encore des esclaves domestiques, propriété d'autres personnes, astreints à des travaux forcés, sans repos, sans salaire, sans soins, des personnes qui sont susceptibles d'être vendues, d'être gagées, d'être louées, d'être cédées, des personnes qui n'ont pas de papier d'état civil, qui n'ont pas le droit à l'éducation. Voilà, sur un fond de racisme et de l'esclavage, d'esclavage traditionnel, il y a une xénophobie, un racisme anti-noir, il y a la violation totale des droits des personnes d'ascendance africaine en Mauritanie. Et je pense que sur ce fond, qu'il y a une dictature militaire. Notre lutte contre cet apartheid est une lutte, bien sûr, non violente et conforme au droit international édicté par les Nations Unies. C'est en ce sens que nous voulons l'implication toujours davantage des instances onusiennes.
Est-ce que la lutte contre le terrorisme, est-ce que les problèmes économiques sont également invoqués par les autorités pour perpétuer ce genre de politique discriminatoire ?
Absolument. La lutte contre le terrorisme est invoquée par le gouvernement mauritanien et les gouvernements occidentaux, et certains gouvernements occidentaux, a permis à la junte militaire en place, aux dictateurs en place, de renforcer un pouvoir personnel répressif qui pèse très 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 lourd sur les populations mauritaniennes, toutes ethnies confondues.
Vous, apparemment, fondez de grands espoirs sur l'ONU, au-delà de l'obtention du prix, votre rencontre avec notamment donc, le sous-secrétaire général Gilmore. Est-ce qu'également les médias, est-ce que la société civile, est-ce qu'il y a d'autres composantes qui peuvent également aider à soutenir votre lutte, à essayer d'inverser cette tendance et ces discriminations ?
Oui, les médias libres ont beaucoup aidé à donner de la visibilité, de l'impact à nos actions. Mais en Mauritanie, à l'intérieur du pays, les médias encore existants sont des médias qui sont encore maintenus sous la coupe de la propagande du régime, sous la coupe de l'orientation du régime, sous la coupe aussi des campagnes récurrentes du pouvoir pour diaboliser tous ses opposants, surtout Iran Mauritanie que je dirige et le président d'Iran Mauritanie que je suis. C'est pourquoi le prix des Nations Unies a été considéré dans les discours des officiels mauritaniens comme un prix qui est donné par l'international juif anti-islamique, une personne qui représente une cinquième colonne de la croisade judéo-chrétienne contre la Mauritanie islamique. Malheureusement, c'est ainsi que les officiels mauritaniens dénaturent pour les populations en utilisant les médias qu'ils ont seul le droit d'utiliser contre les opposants, contre l'idée universaliste et l'universalisme des Nations Unies et de notre combat que nous voulons imprimer au futur de la Mauritanie.
Dernière question, on sait que l'apartheid en Afrique du Sud a fini par s'écrouler et donc disparaître. Est-ce que vous voyez le même scénario se produire chez vous et est-ce qu'il y a une échéance que vous pouvez envisager aujourd'hui ?
Oui, l'échéance n'est pas lointaine et l'écroulement est certain du régime en place, de ce système de discrimination raciale et d'apartheid non écrit. Seulement, nous, notre objectif est ce que le système s'écroule sans effusion de sang. Nous sommes sûrs de l'écroulement du système, mais notre problème maintenant, c'est de quelle manière le système va s'écrouler. Le pouvoir, avec sa démarche de plus en plus aigrie, violente, répressive et fermée, voudrait que ça soit lui ou le chaos, lui ou le déluge. Et nous voulons mettre en branle un mécanisme qui engage les Nations Unies, qui engage d'autres organisations sous-régionales, qui engage les organisations non gouvernementales internationales, qui engage tous les Mauritaniens, tous partis confondus, la société civile, les partis politiques mauritaniens, toutes tendances confondues, pour qu'on puisse désamorcer la bombe et créer un changement pacifique. C'est pourquoi nous, on tend la main à tous les Mauritaniens de s'opposer de manière pacifique, légale et ferme à la tentative du chef de l'État actuel, du dictateur actuel, de tripatouiller la Constitution et de rempiler pour un troisième mandat illicite. Et nous voulons que les instances onusiennes, les Nations Unies, mais aussi les autres instances régionales, l'Union européenne, l'Union africaine, la francophonie, la Ligue arabe, nous voulons que toutes ces institutions s'engagent avec le peuple mauritanien dans le chemin de la paix et essaye d'éviter avec le peuple mauritanien, avec notre organisation Iran Mauritanie, avec moi-même, le chaos en Mauritanie et le chemin que le chef de l'État mauritanien emprunte pour la Mauritanie.
Voilà, c'est ainsi que se referme ce magazine Escale dont l'invité était cette semaine Biram Dahabeid, l'activiste mauritanien des droits de l'homme. Un magazine préparé et présenté par Jérôme Longuet avec la collaboration de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur internet les magazines hebdomadaires mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.